contre cet homme et qu'on voulait seulement l'interroger. L'observeur a identifié le fugitif recherché comme étant Ilich Ramirez Sanchez de Caracas. Son nom, affirmait le quotidien britannique, figurait sur l'un des quatre passeports découverts par la police française lors de la perquisition dans l'appartement parisien où ont eu lieu les meurtres. Le journal ajoutait que Ilitch a été prénommé ainsi en mémoire de Vladimir Ilitch Lénine, fondateur de l'État soviétique, qu'il a fait ses études à Moscou et parle couramment le russe. À Caracas, un porte-parole du Parti communiste vénézuélien a déclaré que Ilitch est le fils d'un avocat marxiste septuagénaire habitant à 700 km à l'ouest de Caracas, mais que ni le père ni le fils ne sont inscrits au parti. Il a, en outre, déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas où se trouvait actuellement Ilitch. Livre 1er. Chapitre 1. Le chalutier plongeait dans les creux redoutables de la mer sombre et déchaîné comme un animal essayant désespérément de fuir un marécage. Les vagues s'élevaient à des hauteurs gigantesques, leur masse venant s'écraser sur la coque avec une force effrayante. Dans le ciel nocturne, la pluie blanche des embruns déferlait sur le pont sous la force du vent. Partout, on percevait les bruits des objets qui souffrent, du bois forçant contre le bois, des cordages qui frottaient, tendus à se rompre. L'animal se mourait. De soudaines explosions percèrent les grondements de la mer, les hurlements du vent et les cris de douleur du navire. Elles provenaient de la cabine mal éclairée qui s'élevait et retombait au gré des vagues. Un homme se précipita par la porte, empoigna le bastingage d'une main, l'autre crispée sur son ventre. Un autre homme suivait, prudent, mais visiblement résolu. Il se cala dans l'encadrement de la porte, braqua sur l'autre un pistolet et fit feu encore une fois. Et encore une fois. L'homme cramponné au bastingage, courbé en arrière sous l'impact de la quatrième balle, porta les deux mains à sa tête. La proue du chalutier plongea soudain en une vallée creusée entre deux lames géantes, projetant en l'air le blessé. Il bascula sur la gauche, incapable de retirer ses mains de sa tête. Le bateau se redressa, l'avant pointant hors de l'eau, et l'homme qui se trouvait sur le seuil fut précipité à l'intérieur de la cabine, tandis qu'une cinquième balle allait se perdre dans le ciel. Le blessé hurlait, ses mains battant l'air pour s'accrocher à n'importe quoi, les yeux aveuglés par le sang, par les rafales d'embrun. Il n'y avait rien à quoi il pouvait se cramponner. Ses mains ne rencontraient que le vide. Ses jambes se dérobèrent sous lui, tandis que son corps plongeait en avant. Le bateau roula violemment sous le vent, et l'homme, qui avait le crâne ouvert, plongea par-dessus bord dans les ténèbres déchaînées, tout en bas. Il sentit l'eau glacée qui l'enveloppait, l'avalait, l'aspirait vers le fond, le faisait tournoyer, puis le rejetait à la surface pour lui laisser tout juste le temps d'une goulée d'air. Un bref halètement et il replongeait. Il y avait la chaleur, une chaleur étrange et moite à la tempe, qui le brûlait à travers l'eau glacée qui ne cessait de l'engloutir. Un feu là où aucun feu n'aurait dû brûler. Il y avait la glace aussi. Une palpitation glaciale dans son ventre, dans ses jambes et sa poitrine. Ces sensations, il les éprouvait à la fois en même temps qu'il sentait la panique l'envahir. Il croyait voir son propre corps se tordre et tournoyer, ses bras et ses pieds luttant frénétiquement contre l'aspiration du tourbillon. Il sentait, il percevait, il voyait son affolement et sa lutte. Bizarrement en même temps, il y avait aussi la paix. C'était le calme de l'observateur détaché, séparé des événements, qui en avait conscience mais qui ne les subissait pas vraiment. Une autre forme de peur se répandit alors en lui, perçant à travers la chaleur ou la glace. Pas question de se laisser aller à la paix. Pas encore. Quelque chose allait arriver d'une seconde à l'autre maintenant. Il ne savait pas très bien quoi, mais quelque chose. Il devait être là à ce moment. Il donna de furieux coups de pied, ses mains griffant les énormes murs d'eau au-dessus de lui. La poitrine en feu, il émergea à la surface, se débattant pour rester à la crête des lames noires. « Monte ! Monte !» Une vague monstrueuse vint l'aider. Il enchevauchait la crête, cerné par des poches d'écume et de ténèbres. « Rien. Tourne ! Tourne-toi » Ce fut alors que cela arriva.